France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. Fantôme, fantôme, disait Colette, au micro d'André Parineau en 1950 sur la chaîne nationale, à l'évocation des personnages secondaires de la série des Claudine. À propos de Willy, son mari, pour qui elle fut le nègre, il signa tout d'abord, comme l'on sait, toute la série des Claudine. Elle s'étonnait de lui découvrir soudain une ou deux qualités, mais elle nuançait très vite. Il a été atteint toute sa vie par une sorte de maladie de la volonté qui l'empêchait d'écrire. Ah, la série des Claudine. Tous les romans sont-ils d'égale qualité? Attention, il y a Claudine s'en va, et de ce roman-là, Colette ne souhaitait pas parler. Première diffusion sur la chaîne nationale, les 6 et 10 mars 1950.
Nous entrons, avec le cinquième entretien, dans un nouveau stade de votre vie, celui de votre séparation avec M. Willy, étape qui, du point de vue littéraire, est marquée par la parution de Claudine s'en va, dont nous allons poursuivre l'examen.
Pourquoi avez-vous inventé le personnage de Maugis riche? Jusqu'à présent, nous connaissions Maugis, mais nous ne le voyons pas sous cet aspect riche. Il est riche, il est collectionneur, il a des moyens assez importants.
Ah, mais oui! Oh, vous avez un œil terrible. En effet, non, je n'ai rien inventé du côté de Maugis. Vraiment pas. Et à ce moment-là, il faut vous mettre dans la mémoire et que vous appreniez d'un seul coup qu'à ce moment-là, ça correspondait à une période où, de par les Claudine et de par sans doute d'autres choses, d'autres productions, il faut vous dire que M. Willy, à ce moment-là, gagnait beaucoup d'argent.
Et c'est la raison pour laquelle vous l'avez peint, puisque nous savons que Maugis était Willy, sous cet aspect d'homme riche. Mais quelle est la part de M. Willy dans ce personnage? Est-ce lui qui vous a demandé de le peindre de cette façon? Est-ce qu'il vous y a aidé? Est-ce qu'il vous y a aidé par ses mots, par exemple? Puisque Maugis, nous lui prêtons à tout moment des propos assez étranges.
Toujours pour être modéré dans l'expression. Mettez qu'il m'y a vivement encouragé.
Nous parlions des mots. Par exemple, je pense que presque tous sont signés Willy. Celui-là, il faut d'abord admettre le mal d'emblée. On a toujours le temps de s'informer ensuite. Ce n'est pas du Colette, cela.
Je ne crois pas. Voulez-vous me permettre de dire que... J'espère que ce n'est pas de moi. Mais puis-je en répondre? Il est bien tard.
Vous avez pratiqué des coupes assez sombres lors de vos éditions originales. Pourquoi?
D'abord, pourquoi les appelez-vous sombres?
Parce qu'elles sont importantes.
C'est agréable.
Expliquez-moi la raison, en tout cas.
Vous parlez de quelle coupure?
Eh bien, il me semble qu'il y a certaines lettres, de Maugis, par exemple, qu'il y a tout un passage sur la musique à Bayreuth, une espèce de compte-rendu à Bayreuth, qui a complètement disparu dans vos dernières éditions.
Mais oui, parce que... Je ne pourrais pas vous citer, encore une fois, et je ne le voudrais pas, vous citer de nom, mais comme j'ai des raisons d'être convaincu et de le rester, que ces lettres et cette musicographie n'étaient pas de M. Willy, mais de plusieurs autres, dont je pourrais vous nommer quelques-uns, mais je ne le ferai pas, à traduire que Dieu merci, ils sont encore vivants. C'est pour ça que je pensais qu'il valait mieux éliminer. Notez bien que je ne veux pas dire que M. Willy n'ait pas été capable, s'il l'avait voulu, d'écrire lui-même ces choses-là, car il était musicien, avec une oreille délicate, une bonne mémoire de la musique, une jolie voix, que de qualité je lui découvre maintenant, n'est-ce pas? Non, il aurait été capable, mais pour dire une grande partie de toute la vérité, je crois qu'il a été atteint toute sa vie d'une sorte de maladie de la volonté qui, en grande partie, l'empêchait d'écrire.
Je voudrais savoir si certaines trouvailles que vous prêtez à Claudine vous sont personnelles. Par exemple, Claudine a inventé la pelle à griller le chocolat, la tarte aux épinards, que sais-je encore. Je pense que la petite Colette d'alors, c'est peut-être une idée à moi d'ailleurs, était tout à fait capable de vivre de cette façon et d'inventer ces choses. Est-ce exact?
Inventer. Quand on pense que c'est d'une... ça ressortit à une gastronomie campagnarde que je regrette pour vous que vous ne connaissiez pas. Comment la tarte aux épinards, la tarte à la citrouille, la tarte aux poireaux frais, la tarte à tous les légumes. Et quant au chocolat grillé, devant le feu de bois ou le feu de charbon, je ne sais pas, je le connais depuis ma naissance. C'était pratiqué dans ma famille. Le chocolat grillé, c'est une chose excellente. Je vous conseille beaucoup d'essayer.
Je n'y manquerai sûrement pas. En tout cas, cela nous prouve que vous avez mis quand même une grande part de vous-même dans votre œuvre. Je voudrais savoir, madame, pourquoi vous avez cru devoir citer un poème de Lucie de la rue Mardru sur une chatte dans Claudine s'en va.
C'est parce que je venais de recevoir. Il était encore inédit et il était bien. Et tout de suite, tout chaud. Je l'ai mis là et puis ça lui faisait plaisir à elle.
Est-ce que vous connaissiez spécialement Madame de la Lucie de la rue Mardru? Je pense que son amour pour les chats vous rassemblait, mais est-ce que vous aviez pour elle une sympathie particulière?
Mais je me plains simplement, et je me plains encore maintenant, de ne l'avoir pas assez connue. C'était un charmant type, si naturel à sa manière. Oh oui, je l'aimais bien. Et puis elle était assez sévère avec moi. Étant donné qu'elle était, et qu'elle est devenue encore par la suite, bonne latiniste, elle me reprenait dans ce qu'elle me disait, et sûrement elle avait raison, quand je faisais des fautes de français. Alors je me laissais très docilement reprendre. Elle était contente, et moi aussi.
Est-ce que je peux vous demander aussi si vous avez connu sa chatte?
La chatte? Oh, bien sûr! La cathèdre.
C'était le nom de sa chatte?
Oui, la cathèdre. Hein? Magnifique, noire et blanche, avec des yeux très beaux. Mais est-ce que tous les chats n'ont pas des yeux très beaux?
Claudine est folle de Debussy, écrivez-vous à ce moment. Est-ce que cela correspond aussi à votre découverte de Debussy?
La découverte de Debussy, vous pensez bien que ce n'est pas moi qui ai découvert Debussy. Ça a été à ce moment-là, ça pourrait s'appeler par vraiment une explosion de Debussy. Un enthousiasme magnifique. J'avais la chance de rencontrer dans le milieu des concerts et des compositeurs, j'avais la chance de rencontrer souvent Debussy. J'en étais heureuse, j'en étais fière, naturellement.
Vous écrivez également, en parlant de vos héroïnes, « Il n'en est pas une des trois à qui je voudrais ressembler. Marthe, prête à tout, Calliope, cynique comme une femme de harem, Claudine, sans pudeur, à la manière d'un animal qui a tous les instincts, même les bons. Préservez-moi de devenir semblable à elle. » C'est presque un jugement de valeur sur vos héroïnes. Et comme ce livre correspond à un tournant de votre vie, dites-moi si on ne peut pas interpréter ce texte comme un jugement que vous portez sur vous-même, une sorte de recherche.
Je ne crois pas. Méfions-nous de toute présomption, surtout à l'époque où nous vivons. Et quand on parle de choses, ces choses qui seront vieilles et qui le sont déjà depuis longtemps, méfions-nous de toute présomption. Et je trouve maintenant, si vous me faites relire la phrase que vous venez de citer, je la trouverai bien empoisonnée de présomption, d'une certaine présomption. Dieu merci, je crois que mes jugements sont devenus plutôt plus indulgents depuis ce temps-là.
Indulgents en effet, parce que vous écriviez à cette époque, « On ne reste pas avec un homme qu'on n'aime pas ».
Ben, j'aurais bien voulu, mais comment faire?
Vous avez écrit aussi, quand on aime d'une certaine manière, les trahisons elles-mêmes sont sans importance.
Ça, mon enfant, ça sent la littérature à plein nez.
Décrivant Bayreuth, vous écrivez « la pluie, le ciel fond en pluie et le ciel ici c'est du charbon ». Est-ce le souvenir que vous laisse Bayreuth ?
Oui, je vous assure que les deux ou trois fois que je suis allé à Bayreuth avec M. Woody, vraiment, c'était un ciel extrêmement imprégné de charbon qui pleuvait sur nos têtes, sûrement.
Quel autre souvenir plus personnel vous laisse Bayreuth ?
À Bayreuth ? Des chefs d'orchestre incomparables. À Munich aussi. Tous les Mottl, tous les Strauss, des chefs d'orchestre vraiment incomparables, dont on ne pouvait pas être vraiment enthousiasmé par une certaine espèce de chaleur profonde. Je n'ose pas dire de compréhension particulière. Je ne suis pas assez ni musicienne ni musicographe pour l'affirmer. Mais quel orchestre splendide et vraiment tout chaud, tout imprégné non seulement par le génie de ses chefs d'orchestre, mais encore tout ce que lui communiquait, tout ce que pouvait lui ajouter une foule pénétrée elle-même d'enthousiasme.
Vous prêtez à Maugis, dans votre roman, le talent d'avoir découvert Wagner et de l'avoir surtout fait connaître en France. Je voudrais savoir
pourquoi. J'ai dit ça, moi ?
Vous dites ça.
Oh, quel culot !
On rencontre encore dans votre ouvrage le personnage de Polaire. Pour quelles raisons le faites-vous réapparaître ?
Parce qu'à ce moment-là, Polaire, cette douce, cette charmante Polaire, a été, de par son entrée sur la scène, et comme elle a quitté le café-concert, Polaire a été l'objet non seulement d'une curiosité, mais d'un engouement dont maintenant vous ne pouvez plus vous faire l'idée. Alors, n'est-ce pas ? Chaque fois qu'elle paraissait quelque part, non seulement elle y était chaleureusement remarquée, mais encore c'était presque une obligation de mode. Si Polaire était quelque part, il fallait signaler Polaire. Et comme j'avais en même temps de l'affection véritable pour Polaire, et que je découvrais que Polaire était non seulement une inconnue, mais une méconnue, je ne me privais pas, un peu ironiquement, de parler d'elle quand j'en avais l'occasion.
Est-ce que je peux vous demander très respectueusement, madame, quel jugement vous portez aujourd'hui sur Claudine s'en va ?
Sur ?
Claudine s'en va.
Il vaut mieux que je ne vous en fasse vraiment presque aucune part. Ça vaudra mieux pour l'œuvre et ça vaudra mieux aussi pour l'idée que je me fais de moi-même.
En feuilletant vos brouillons, je me suis aperçu que sur la première page de vos cahiers, vous aviez indiqué un autre titre. C'était Claudine, je crois, s'évade, ou je m'évade, parfois, n'est-ce pas ?
Je m'évade.
Cela correspondait à quoi dans votre esprit ?
Je ne sais pas, c'était Claudine s'en va. Ce titre-là ou l'autre. Mais je crois que j'ai changé le titre, justement, pour qu'il ne puisse pas y avoir de confusion, et que l'on ne prie pas cela pour une autobiographie.
N'avez-vous pas l'impression que déjà Claudine s'en va annonce par son style, sa composition, une autre Colette ?
Je ne pourrais pas vous le dire maintenant parce que pour être entièrement honnête, et j'aime bien être entièrement honnête, du moins en ce qui concerne la littérature, il faudrait pour ça que je m'astreigne à relire ce roman-là, sinon les autres. Et je vous avoue que je ne me sens pas le courage. Disons le courage, et je ne me sens pas non plus l'envie.
Très imparfaitement, madame, je voudrais me permettre de vous lire un passage qui, il me semble, n'appartient pas à la première Colette et déjà annonce l'autre. Voulez-vous me le permettre?
Oui.
Devant moi, c'est le trouble à venir. Que je ne sache rien de demain, que nul pressentiment de m'avertisse, Claudine m'en a trop dit déjà. Je veux espérer et craindre que des pays se trouvent où tout est nouveau, des villes dont le nom seul vous retient, des ciels sous lesquels une âme étrangère se substitue à la vôtre. Ne trouverais-je pas sur toute la grande terre un à peu près de paradis pour une petite créature comme moi? Ça, c'est déjà la grande Colette.
Attendez, j'ai une objection à vous présenter. Est-ce que, vous voyez que j'ai tout de même un peu de mémoire, est-ce que je ne mets pas ces paroles-là dans la bouche d'Annie?
Exactement.
Eh bien, c'est pas Claudine.
Bien sûr.
Mais oui.
Mais c'est quand même vous. Et vous qui faites parler un personnage d'une façon un peu nouvelle. Vous l'élevez à l'idée générale, vous la faites descendre en elle-même. Il y a une recherche qui est nouvelle.
Vous voulez prononcer le mot « idée générale » Ça suffirait à vous prouver et à me prouver à moi qu'il ne s'agit pas de moi, mais d'Annie.
Eh bien, je n'insiste pas.
Mais bien sûr.
En 1904, vous écrivez « Mine ». En 1905, les égarements de Mine. Vous les groupez en 1909 sous le titre « L'ingénue libertine ». Quelle était, au départ, l'idée romanesque de Mine?
Elle est bien simple, surtout bien brève. J'avais eu l'idée d'une petite nouvelle qui n'avait pas en tout vraiment une cinquantaine de pages. Voilà tout. Voilà notre point de départ pour Mine.
Et quelle a été la part de M. Willy dans la transformation de Mine?
Eh bien, dans la transformation, il m'a dit vivement, vivement, il m'en faut au moins 150 pages.
Et vous êtes mis au travail en brodant sur la nouvelle de base.
Et qu'est-ce que vous voulez que je fisse?
Vous pouviez facilement refuser.
Je pouvais?
Facilement refuser.
On voit bien que vous n'avez pas épousé M. Willy.
Quel concours effectif vous a-t-il apporté?
Un concours?
Je savais qu'il fabriquait certains de vos personnages, n'est-ce pas? Vous nous l'avez déjà dit. Est-ce qu'on peut considérer que dans Mine, il a fabriqué certains personnages, il vous a indiqué des situations...
Oh non. C'était une sorte de confiance à cette époque-là m'était acquise. Et je pouvais, pourvu que j'écrivisse, je pouvais faire ce que je voulais.
Mais dans vos éditions actuelles, vous avez aussi supprimé certains passages. Est-ce que cela ne correspond pas justement à un refus d'admettre certaines pages qui ne sont pas de vous?
Moi non, c'est parce que je ne les trouvais pas assez bonnes, et puis voilà tout.
Je voudrais savoir si le fait divers, qui est la trame des rêves de Mine, tout à fait au début du roman, n'est pas emprunté à un événement de l'époque. L'héroïne dont rêve Mine, et qui est désignée sous le nom de Casque de Cuivre, n'est-elle pas Casque d'Or, qui défraya la chronique aux environs de février 1902, par exemple?
Peut-être, mais pourquoi nous attarder à ça?
Non, je ne veux pas m'y attarder, mais je voudrais justement établir la façon dont vous fabriquez vos romans, la façon dont vous savez prendre vos personnages, prendre vos situations, vous savez mélanger la réalité et le pur roman, n'est-ce pas? Il est important de savoir qu'au point de départ, vous êtes parti, en ce qui concerne les rêves de Mine, d'un fait existant. Vous auriez pu facilement l'inventer, vous avez préféré l'emprunter aux journaux.
Je pense que ça s'est passé comme vous le dites maintenant. Oui, sans doute.
Pourquoi avez-vous fabriqué une silhouette de Maugis avec une moustache militaire, yeux d'escargot, sale tête, câlinerie blessante et avec une si triste réputation?
Oui.
Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi?
Ça ressortit un certain, c'est bien comme ça qu'on dit, masochisme de M. Willy. Il aimait toutes les louanges et tous les dénigrements. C'était une belle nature.
Vous fabriquez également un Maugis délicat devant une mine désarmée qui s'offre à lui. N'est-ce pas vous qui avez entièrement écrit ce personnage ou est-ce M. Willy qui vous a aussi demandé de le fabriquer aussi désintéressé?
Faut-il dire aussi désintéressé? ou aussi désarmé. Nous n'éluciderons pas ce point, si vous le voulez bien.
Avec l'ingénue libertine, nous abandonnons un style et une forme de roman que nous avait révélé la jeune Colette. Nous allons poursuivre le bavardage de ce sixième entretien sur le monde que vous avez inventé pour Mine, votre héroïne. Et puis nous entrerons dans le nouvel univers de Colette que nous annonce la retraite sentimentale. Examinons tout d'abord, si vous le voulez, quelques-uns des personnages qui entourent Mine.
Nous voyons réapparaître dans Mine, encore une fois, Polaire. Cette fois, elle patine au Palais des Glaces. Parlez-nous un peu de Polaire patinant au Palais des Glaces.
Oh, c'était un spectacle ravissant. J'y suis allé quelques fois rien que pour la regarder patiner. D'abord, le Palais des Glaces était un endroit charmant. Et Polaire, qui ne patinait jamais seul, mais qui valsait sur patin, avec généralement des professeurs de patinage. Vraiment, cette manière d'être aérienne, et si mince d'ailleurs, n'appartenait qu'à elle. Et je n'étais pas la seule à avoir du plaisir à la contempler. Elle avait toujours un grand cercle d'admirateurs tout autour du Palais de Glace.
Vous présentez également le personnage de Madame Chaulieu, une harpie que vous dites être la plus méchante femme de Paris. Elle a tellement de vérité que je ne peux pas croire qu'elle n'a pas existé.
Eh bien, faites-moi honneur à moi toute seule de son apparence de vérité et ne cherchez pas autre chose.
Si je comprends bien, vous ne voulez pas me donner son nom.
Oh non, elle n'en a pas. Elle n'en a pas. Est-ce que vous ne pensez pas tout de même? Vous avez donc une bien piètre opinion de moi en tant qu'écrivain pour penser que je ne peux pas fabriquer de toutes pièces une femme méchante. Je vous assure que si.
Je pense évidemment, madame, que vous êtes plus capable de fabriquer une femme méchante. Seulement comme cette femme, à part deux fois, a parti avec M. Maugis qui se dispute avec elle, j'avais pensé que peut-être M. Maugis avait des intentions particulières et que s'il avait fabriqué cette dispute, ou si vous avez demandé de la fabriquer, avec ses réponses cinglantes, c'est peut-être qu'il avait des raisons. C'est pourquoi j'insiste pour savoir si elle n'a pas existé. Et si M. Maugis n'avait pas intérêt à ce qu'elle existât.
Non. Laissez tout ça.
Et Machin, l'académicien auteur du Spectre d'Orient et des Désabusés, quelle était sa réalité de chair?
Ah, ça doit dater d'un moment. Alors là, vous serez plus content de moi, puisque je me laisserai aller à vous dire que ça doit dater du moment où M. Willy s'est brouillé avec Pierre Loti.
Ne parlez-vous pas également, en faisant dire à Mine, de l'amour de la façon suivante? Ce que je cherche, c'est l'amour, n'importe lequel. Un amour comme tout le monde, mais un vrai. Et je serais bien avec celui-là m'en créer un qui soit digne de moi. Je voudrais savoir de quelle façon vous interprétiez cette phrase à l'époque. Si vous le prêtiez purement à une héroïne et si ça appartenait à la littérature.
À la littérature, n'hésitez pas une minute. C'est entièrement du domaine littéraire.
Et cette question, l'aventure, c'est l'amour. Mais quel amour? Comment l'interprétez-vous? Est-ce qu'il n'y avait pas chez vous à ce moment-là aussi un désir de recherche et d'évasion?
Non, parce que à ce moment-là, j'étais une petite bonne femme qui travaillait sur le papier aussi bien qu'elle le pouvait. Et ma foi, si, quand vous faites allusion à cette période de ma vie, je crois y distinguer que j'étais même pas amoureuse.
Je voudrais dresser maintenant le parallèle Léon-Antoine. Léon, c'est le pâle époux de Marthe, romancier qu'on enferme. Antoine, n'est-ce pas, c'est l'époux de Mine. Tous les deux me semblent extrêmement caricaturales, forcés d'une façon opposée. Est-ce qu'il n'y avait pas chez vous une sorte de réaction contre les hommes en général à ce moment-là?
Contre les hommes en général? Oh, pas du tout. Songez que c'est tout de même parmi les... C'est dans le genre masculin que j'ai trouvé mes meilleurs amis et mes meilleurs camarades. Par conséquent, moi j'aimerais mieux vous dire, même si ça doit m'être un peu pénible, que je crois bien que Je les ai peints caricaturaux, que faute de pouvoir les imaginer mieux.
Mine se promène beaucoup dans l'été de Paris, à la Galerie du Fritz, à l'Empire et Palace, à l'Asturie, au Palais des Glaces. Elle découvre presque l'été de Paris. Elle en est une abonnée, si je puis dire. Est-ce que cela ne correspond pas aussi chez vous à une sorte de promenade parmi ces thés? Est-ce que vous n'avez pas mélangé les souvenirs personnels?
Dans tous les cas, ça ne coïncide pas du tout avec une gourmandise du thé lui-même, que je n'aimais pas beaucoup. Mais il y avait à ce moment-là dans Paris de bons gâteaux. Et puis, je détournais l'attention en parlant des thés réputés chics. Je détournais l'attention de ceux qui auraient pu penser qu'on me rencontrait dans ces thés-là. Mais si on m'y avait cherché, on ne m'aurait guère découverte que dans le petit British quelque chose, qui était, qui est sans doute, je l'espère encore, au coin de la rue d'Argenteuil et de la rue des Pyramides, et qui était sombre, chaud, qui sentait bon, et où il n'y avait pour ainsi dire ni français ni française. Là-dedans, je m'y sentais bien avec une vieille amie très gentille que je traînais là ou qui me traînait là. Et nous allions nous réfugier dans l'ombre, dans une quasi-solitude, dans une gourmandise assez bien entendue.
Je voudrais savoir, madame, c'est une question très indiscrète, si vous alliez à cet été en sortant de votre table de travail, c'est-à-dire que Monsieur Willy vous ayant libéré de votre pensum quotidien, vous laissez partir à cet été à ce moment-là?
Oh non, vous savez, un certain genre de séquestration n'avait lieu qu'à la campagne. À la campagne, oui, il fallait être un peu bouclé pour travailler, parce que vous pensez bien que les pièges étaient tout autour de moi. Il suffisait que j'ouvre une porte et que je débouche dans la campagne pour être presque impossible à retrouver ou à maîtriser. Alors à Paris, à Paris c'était assez paisible.
Et puis il vous faisait confiance, vous aviez conquis vos grades à ce moment-là.
Voilà. Ce terme flatteur me convient tout à fait.
Premier roman paru en librairie sous votre signature personnelle, La retraite sentimentale, date de 1907. Quelles étaient, au moment où vous avez écrit ce livre, vos relations et votre situation vis-à-vis de M. Willy?
Mais si je ne me trompe, c'est du domaine de l'indiscrétion la plus formelle, cette question.
Indiscrétion sans doute, mais je pense que votre réponse, si elle était complète, aurait de l'importance pour votre œuvre, parce que La retraite sentimentale est tout entière baignée dans une atmosphère qui, peut-être, je le crois, doit être expliquée par votre situation à ce moment-là.
Ma situation, je pense que j'excéderais singulièrement la vérité si je l'appelais conjugale.
Est-ce à dire que votre séparation avec M. Willy était déjà décidée?
Ma foi, je ne saurais pas situer exactement la date de ce que vous appelez une séparation définitive et... Non, je... 1907, vous me dites. Oui, bon, je ne crois pas avoir beaucoup à satisfaire votre curiosité et la curiosité éventuelle de mes auditeurs. Je ne vois rien à vous dire de bien grave là-dessus.
Avez-vous pris vous-même la décision d'écrire ce livre ou vous a-t-il été commandé comme les autres, les précédents?
Commandé est un mot un peu sec. Ce n'est peut-être pas que lui dépasse la vérité, mais j'aimerais bien, si vous le souffrez, ne pas m'étendre beaucoup là-dessus.
Je vais vous poser la question autrement. Et sans doute votre réponse permettra aux auditeurs d'y voir plus clair. Vous sentiez-vous à ce moment-là du goût pour le métier d'écrivain?
Non, je ne me sentais pas beaucoup de goût pour le métier d'écrivain. Vraiment pas, non.
Vous avez donc écrit ce livre à peu près comme un pensum, comme les autres?
Mettons, oui, Disons, comme vous venez de le dire vous-même, je n'aurais pas trouvé mieux. Disons, comme les autres.
Mais le fait d'écrire ce livre sous votre nom, car vous l'avez signé.
Je ne l'ai signé que parce que je l'ai singulièrement, et cette fois-là, vigoureusement défendu et revendiqué.
Je pense que cette déclaration mérite une belle explication. Qu'entendez-vous par revendiquer ?
Dire, je veux signer ce livre. Je veux le signer. J'entends le signer. Il sera signé de moi.
C'est-à-dire que ce livre, vous ne l'avez peut-être pas écrit librement, mais vous y teniez. Est-ce qu'on doit considérer cet ouvrage comme une œuvre personnelle, une œuvre enfin de Colette ?
Une œuvre de Colette, vous savez, je ne savais pas encore très bien ce que ça voulait dire à cette époque-là. Mais ma foi, je l'ai revendiqué sans doute à cause, principalement, du côté paysagiste de cette petite œuvre très mince.
Est-ce que M. Willy, d'une façon ou d'une autre, vous a aidé à écrire ce livre par des corrections ou bien par des situations qu'il a demandées concrètes ?
Il s'est trouvé que le manuscrit que j'en ai est un des manuscrits qui ont été sauvés et je n'en vois pas beaucoup de traces. Non, pas beaucoup.
Quelle était à cette époque votre situation matérielle ?
La situation matérielle ? À peu près zéro. Je n'ai jamais su, ni de naissance, ni bien longtemps après. Je n'ai jamais eu aucune fortune personnelle. Et ce n'est pas à exercer le métier clandestin que j'exerçais à ce moment-là que j'aurais acquis l'ombre d'une fortune personnelle ou même un petit pécule quelconque.
Est-ce que vous n'espériez pas, avec ce livre, justement, réussir à, mettons, redorer votre blason ?
Argenté suffisant. Oui, je l'espérais. Il fallait bien que je l'explique, que je l'espère. Je n'ai pas dit que je l'espérasse. Fais attention, n'est-ce pas ? Oui, je l'espérais. Il fallait bien, il fallait louer, il fallait vivre, je n'avais rien.
C'est une des raisons pour laquelle vous avez été amené à écrire ce livre et surtout pour laquelle vous avez défendu votre signature.
Oui, ce n'est pas pour cette raison-là encore que je l'ai écrit, mais c'est pour cette raison-là que je l'ai défendu.
Où avez-vous écrit La retraite sentimentale ? Dans quel lieu ?
En partie dans le lieu qu'elle représente et qu'elle débaptise, là-bas, en Franche-Comté, au Mont-Boucon, dans un endroit ravissant.
J'aimerais que vous nous précisiez ce qu'était pour vous cet endroit.
Mon Dieu, c'était une oasis, le mot n'est pas trop fort. C'était une vieille petite propriété qui datait du directoire, quelques hectares, qui avaient été longuement négligés et qui n'en étaient que plus beaux.
Cet endroit vous appartenait en propre ?
Je l'ai cru un moment, mais quand il m'a été retiré, j'ai bien été forcé de constater qu'à aucun moment il ne m'avait appartenu régulièrement.
Je crois que les auditeurs ne comprendront pas très bien ce que vous voulez dire. Il vous a été retiré cet endroit. En quelles circonstances et par qui ?
Mais par la seule personne qui en eût été capable dans tous les sens du mot capable, c'est-à-dire M. Willy.
Je voudrais savoir comment vous avez conçu la retraite sentimentale, dans quel esprit ? Vous nous avez dit, je n'y reviens pas, que vous n'avez jamais de plan pour écrire vos livres. Mais vous avez une façon de concevoir vos personnages, de vivre avec eux, de les travailler, de les faire naître, de les développer. Racontez-nous, si vous vous en souvenez encore, comment vous avez conçu cette retraite sentimentale ?
Premièrement, je me garderai bien de m'en souvenir encore. Et ensuite, je ne le sais pas davantage moi-même. Je n'y apporte pas plus de lucidité que pour les romans qui ont précédé celui-là.
Est-ce que vous avez introduit des personnages réels dans cet ouvrage ?
Je n'en vois pas. Vous en voyez, vous ?
Bien, je tâcherai de vous démontrer, cependant, si vous voulez bien être sincère, qu'il y en a un certain nombre. Je voudrais vous poser une autre question. Est-ce que la retraite sentimentale ne représente pas, à travers ces situations et son atmosphère générale, un état de votre sensibilité de femme à cette époque ?
Peut-être. Peut-être, mais c'est très loin, vous savez. Je vous reproche d'aller prospecter des époques si éloignées dans ma vie, et par cela même si éloignées de ma vie de maintenant.
Éloignées sans doute, mais où il y a déjà une part de Colette. Et je n'en veux pour preuve que certains extraits, par exemple la retraite sentimentale, nous révèle une Colette plus riche, plus complexe, plus diverse. Une Colette sage d'abord. Si vous le permettez, je voudrais vous lire un passage qui se trouve dans la retraite sentimentale presque à la fin. Vous écrivez « Quand j'étais petite, une grande sagesse précoce m'envoya au plus beau de mes joies plusieurs avertissements mélancoliques d'une amertume savoureuse au-dessus de mon âge. Elle me dit, vous pensez à une belle dame en blanc avec un diadème qui m'apparut parmi l'obscur feuillage du vieux noyer? Pas du tout. C'était simplement, banalement, la voix secrète, une mobilisation presque douloureuse. »
Si je vous interromps avant la fin de cet alinéa. Mais je vous assure, je supporte de plus en plus mal ce que j'appelle la littérature, surtout dans mes propres œuvres.
Vous rangez donc ce passage, comme vous le dites, dans la littérature, et je sens que chez vous, ce
en
mot...
En plein, ce et mot, sans le moindre ménagement.
Un sens très, très péjoratif.
Oui.
Je voudrais être sûr, cependant, que la conclusion de ce passage, voyez-vous, où vous dites, permettez-moi d'aller jusqu'au bout, « Oh, souhaite d'arrêter le temps, souhaite de demeurer encore un peu pareil à toi-même, ne grandis pas, ne pense pas, ne souffre pas, souhaite cela si fort qu'un dieu quelque part s'en émeuve et t'exauce. » De la littérature
non,
encore.
Pardon, je pousse un petit gémissement, mais comme je viens de vous le dire et que je ne me lasserai pas de le répéter, je supporte de plus en plus mal la littérature, quelles que soient ses sources et sa signature.
Je crois que vous êtes très sévère envers vous-même.
Ben pourquoi donc pas? C'est mon devoir. C'est mon devoir, c'est mon goût. D'être très sévère avec moi-même, il est bien temps.
Vous avez écrit aussi « La vie est un jardin où l'on peut tout cueillir, tout manger, tout quitter et tout reprendre ». Vous allez me répondre que c'est encore de la littérature.
Oui.
Mais cette avidité à vivre qui transparaît sous les mots exprime, je le crois, une autre part essentielle de vous-même. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose là-dessus?
Sur quoi? Sur l'avidité? L'avidité. Oh, une avidité bien modeste. Et qui se contentait, si on l'eût laissé en repos, et qui se contentait de vivre pendant les mois que je faisais le plus long possible, dans une campagne extrêmement modeste, là-bas, au Montboucon.
Dans cette phrase, vous dites tout cueillir, tout manger, tout quitter et tout reprendre. Croyez-vous vraiment qu'on puisse tout quitter et tout reprendre? Pourquoi avez-vous écrit cela?
Oh non, je ne pense pas une minute maintenant que je crois penser tout de même encore sainement. Je ne pense pas ni qu'on puisse tout quitter, ni qu'on puisse ni reprendre. Et je n'avais pas un si grand appétit, ni une si grande infidélité à ce que j'aimais.
Une autre Colette pensait également avec son amour merveilleux des bêtes et des plantes. Vous écrivez d'ailleurs « Je sais mieux choisir maintenant et je veux libre autour de moi la vie des plantes et celle des bêtes sans méfiance ». Et vous consacrez de très belles pages à la vie animale. Est-ce que vous vous souvenez encore de certains animaux que vous avez connus à ce moment-là?
Oh oui, oh, les animaux, il est rare que je les oublie, vous savez. Ils ne méritent pas à jamais d'être oubliés. Qu'est-ce que vous voulez savoir?
Eh bien, vous nous parlez par exemple d'un crapaud qui chante le soir.
Oui, gros crapaud.
D'un gosier amoureux.
Énorme crapaud. Vous ce n'était peut-être pas lui qui chantait. Mais il était là tout le temps. Je ne l'ai pas vu chanter. Et je ne sais pas si c'était lui qui chantait. Mais c'était un fort, beau, confortable et énorme crapaud.
Vous avez un trait pour le dépeindre. Vous écrivez « Déférent mais rassuré, il me regarde de temps en temps, puis s'appuie d'une main humaine contre le mur et se soulève debout pour le happer ». Vous le revoyez encore?
Oh, très bien. Je lui ai gratté la tête. Les crapauds aiment qu'on leur gratte la tête. C'est une chose, c'est un détail qui a son importance, mais que l'être humain ignore vraiment trop souvent.
Eh bien, je suis content que vous nous révéliez ce détail. Vous nous parlez également d'un hérisson.
Oui, hérisson. Mais un hérisson n'est pas une bête rare. Le hérisson que j'ai pu garder, il a eu une fin heureuse. Il est mort d'indigestion. Il avait mangé trop de gigot froid.
Est-ce que vous vous souvenez également de l'écureuil?
De?
L'écureuil.
Ah oui, mais les écureuils, ils étaient nombreux. Ils venaient regarder manger, nous regarder manger et réclamer leur part, comme tous les écureuils du monde, comme ceux qui sont en Amérique et qui sont si familiers.
Je voudrais savoir si cet élan vers la nature, que vous n'avez jamais oublié, bien sûr, mais qui ne transparaissait pas aussi fort dans vos autres œuvres, n'est pas une sorte de réaction à la vie que vous avez menée jusqu'ici, à cette époque. Votre vie à Paris un peu claustrée, un peu malheureuse aussi, peut-être.
Je ne sais pas, je ne saurais jamais vous répondre aussi bien que je le voudrais et aussi bien surtout que vous le voudriez. Mais je ne faisais aucune... Je ne donnais aucune part dans ma vie à la campagne. Je tâchais, et j'y arrivais facilement, à ne donner presque aucune part à ce qu'eût été le souvenir de ma vie à Paris.
Ces émissions ont été diffusées pour la première fois sur la chaîne nationale les 6 et 10 mars 1950.